Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Le droit à la sécurité, l'un des droits les moins bien respectés en France. 6 Français sur 10 estiment que le gouvernement ne prend pas suffisamment en compte la question de leur sécurité, selon un sondage CSA pour CNews, avec des exemples quotidiens d'agressions, de vols ou de violences contre les citoyens ou contre des policiers, ou encore des situations invraisemblables, comme à Villetaneuse, où une mère de famille et sa fille ont été agressées à coups de couteau dans leur appartement quelques jours après avoir eu une altercation avec des dealers qui filtraient les entrées de leur immeuble et ne laissaient pas passer les membres de leur famille quand les gangs font la loi. On reviendra aussi au cours de cette édition sur l'affaire Adama Traoré, mort en 2016 après son interpellation par des forces de l'ordre. La mère d'un des gendarmes impliqués dans cette arrestation sort du silence pour dire sa vérité. « Mon fils n'est pas un assassin », dit-elle. Nous l'entendrons ce soir dans Punchline. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. On les développe dans un instant, juste après 18h. Elle rappelle les grandes lignes de l'actualité.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. La Russie entérinera demain l'annexion de territoires ukrainiens dans le Donbass. Cette annonce intervient après l'organisation de référendums d'annexion, vous le savez, dans 4 régions d'Ukraine. Des régions contrôlées en partie par Moscou. Pour l'occasion, le président Vladimir Poutine prononcera un discours. En attendant, il s'est exprimé aujourd'hui et n'a pas manqué, bien sûr, de critiquer l'Occident. On l'écoute.
Un monde plus juste est en train de se former sous nos yeux. C'est un processus complexe. Cela s'accompagne des problèmes qu'on connaît. L'hégémonie unipolaire s'effondre inexorablement. C'est une réalité objective que l'Occident refuse d'accepter.
Et puis la Finlande ferme à son tour ses frontières aux Russes, munies d'un visa de tourisme européen. Elle invoque les référendums dans l'est de l'Ukraine et la situation des gazoducs Nord Stream où des fuites, 4 fuites ont été détectées. Le pays s'aligne ainsi sur la décision prise début septembre par la Pologne et les 3 pays baltes, une situation dénoncée par les Russes qui tentent toujours de traverser la frontière. Écoutez-les.
Je viens de passer la frontière, je ne sais pas comment les autres vont passer. C'est triste, c'est triste, c'est une honte que les Finlandais ne nous laissent plus entrer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis désolé pour les autres. Ils sont déjà comme en prison là-bas. Maintenant, c'est encore pire.
Nous étions déjà derrière le rideau de fer. Maintenant, le rideau sera encore plus épais. C'est horrible.
Bien sûr, je suis contre la fermeture des frontières parce que la Finlande est le pays d'Europe le plus proche pour nous. Maintenant, beaucoup de gens qui sont sains d'esprit n'auront pas la possibilité de fuir ce chaos.
Au lendemain d'une nouvelle fusillade à Nantes dans le quartier des Dervalières, la maire de la ville a demandé la création de nouveaux postes de fonctionnaires de police et de justice. Hier, un jeune de 17 ans a été gravement blessé par balle. Johanna Roland, la maire de Nantes, a tenu à rassurer les habitants.
Je l'ai dit au ministre de l'Intérieur, je le redis aujourd'hui, je veux que les Nantaises et les Nantais soient assurés d'abord de la meilleure coopération possible des pouvoirs publics. Je pense que c'est important de savoir que le procureur, la maire, le préfet, chacun dans son rôle, chacun dans sa responsabilité, est là pour servir les Nantais. Cette bataille, elle est difficile. Nous la menons, nous allons continuer à la mener sans relâche. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur le terrain ce soir.
Emmanuel Macron n'exclut pas de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de motion de censure contre le gouvernement. L'exécutif veut une réforme des retraites avant la fin de l'hiver. La première ministre Elisabeth Borne annonce donc l'ouverture de nouvelles concertations avec les partis politiques et les partenaires sociaux. Il y avait des manifestations aujourd'hui dans toute la France contre cette réforme de retraite, avec beaucoup de personnalités politiques présentes dans le cortège. Écoutons le président de la Commission des finances, Éric Coquerel.
C'est d'autant plus important avec la confirmation qu'on vient d'avoir sur... L'idée d'Emmanuel Macron de passer rapidement le projet de réforme sur les retraites. Donc il faut se mobiliser sur le pouvoir d'achat, ça c'est une évidence. Mais il faut commencer à se mobiliser fortement pour faire en sorte que ça soit un échec. Et si j'ai bien compris, faire en sorte que ça soit une motion de censure et qu'il s'en aille. Donc, enfin, pas qu'il s'en aille, mais cette majorité. Donc voilà, c'est la première mobilisation d'importance. Il y aura notre marche du 16 octobre. Et puis on va faire le job à l'Assemblée.
Enfin, la Floride, touchée par des inondations catastrophiques après le passage de l'ouragan Yann. Il a dévasté des villes, a causé la mort de 2 personnes. Selon le gouverneur de l'État, 2 millions de foyers sont privés d'électricité. L'ouragan a depuis été rétrogradé en tempête tropicale. Il poursuit son chemin vers la Caroline du Nord. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. On débat ce soir de tous les thèmes du jour avec Eric Nolot, qui est journaliste et écrivain. Bonsoir Eric Nolot.
Bonsoir
Nathan
Laurence.
Devers, agrégé de philosophie. Bonsoir Nathan.
Bonsoir.
Nous sommes avec Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien.
Bonsoir.
Et Eugénie Bastier, journaliste au Figaro. Bonsoir.
Bonsoir.
On a beaucoup de choses assez lourdes dans l'actualité, mais j'aimerais commencer par une bonne nouvelle. Ce n'est pas si souvent que cela. Les naissances repartent à la hausse en France avec, après des années de baisse, 6 années de baisse exactement. Cela veut dire peut-être que les Français ne sont pas si pessimistes que cela. En tout cas, une chose est sûre, les conceptions se sont accélérées à la faveur, bien, vous savez, des confinements, tout simplement, liés au Covid. Explication avec Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1, et je vous passe la parole ensuite.
Oui, Laurence, la France a connu une explosion des naissances, surtout 9 mois après le confinement de novembre 2020. Plus de 742 000 bébés sont nés en 2021. Alors, tous les confinements n'ont pas eu le même effet. Par exemple, après le tout premier, eh bien, il y a eu une baisse des naissances. Mais 9 mois après la fin du 3e confinement, celui d'avril 2021, eh bien, les naissances sont remontées en flèche. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois, il y a moins de conceptions lorsque les restrictions sont en place. De quoi en déduire une tendance? Pendant les confinements, face à un avenir incertain, les Français ont retardé leur projet bébé. Autre chose que nous dit le rapport de l'INSEE, ce sont les femmes les plus âgées qui ont tiré la natalité vers le haut et notamment celles de plus de 40 ans. En revanche, le nombre de naissances a baissé de 8% chez les moins de 25 ans et d'un quart chez les femmes de moins de 20 ans.
Merci beaucoup Yasmina Katou. C'est très intéressant ces chiffres des naissances avec à la fois les femmes de plus de 40 ans qui font des enfants et les jeunes qui attendent. Alors, il y a d'un côté, il y a cette inquiétude qui pèse sur notre jeunesse, qui est face à une crise à l'époque sanitaire, aujourd'hui crise énergétique, crise environnementale. Eric Nolot, qu'est-ce qu'on peut en conclure ?
Que la fracture générationnelle concerne tous les sujets. Sur tous les sujets qu'on aborde, il y a maintenant un découplage entre les générations. Je pense que ça a toujours existé, mais à ce point-là, ça devient spectaculaire. Si je comprends bien, c'est plutôt un effet de rattrapage plutôt qu'une tendance longue, mais en tout cas, c'est le retour d'une exception française plutôt bénéfique, puisqu'on se distinguait parmi tous les pays occidentaux avec ce taux de natalité. On pensait être rentré dans le rang. Donc, il y a un moyen de se réjouir, mais vraiment, les jeunes femmes et les jeunes couples ont l'air d'être de plus en plus pessimistes sur leur avenir et n'ont pas envie de jeter leurs enfants dans ce monde de plus en plus incertain.
Et c'est sur l'avenir de la planète, Eugénie Bastier aussi.
Oui, moi, j'attends de voir si cette hausse se confirme vraiment. Oui. Il me semble que pour le moment, elle est assez légère. Il me semble plutôt que c'est un rattrapage en fait d'une baisse précédente. Ce qui est vrai, c'est que la France, en effet, est en passe de perdre son statut d'exception en tant que pays européen parce qu'elle avait des très bons chiffres de la natalité. Mais François Hollande, en 2012, a cassé complètement ça, notamment en supprimant l'universalité des allocations familiales et en finalement cassant ce modèle français, en réservant les allocations familiales finalement aux couples les plus modestes, mais du coup en cassant cette universalité. Et je pense qu'il faut aujourd'hui mettre en place une politique beaucoup plus nataliste, beaucoup plus en faveur des familles pour pousser justement à la démographie.
Parce que c'est le renouvellement des générations.
Et le renouvellement des générations, parce que c'est essentiel dans le destin de la nation.
Jean-Sébastien Ferjou, on fait des bébés, mais pas assez ?
Oui, alors déjà, me semble-t-il, le troisième confinement, c'était essentiellement un couvre-feu.
Donc oui,
c'est peut-être
mais le premier...
plus le couvre-feu. Oui, mais c'est pas inintéressant sur le premier confinement. Le premier confinement, passer toute la journée ensemble.
Ah non, on ne veut plus de confinement.
N'avait pas l'air d'être très bénéfique pour les naissances. En revanche, ne plus sortir de chez soi le soir, les plus qui finalement tombent un peu sous le sens. Mais oui, je crois que c'est essentiellement un effet de rattrapage, comme le disait Eugénie Bastier. Et peut-être plus qu'il y a certainement une fracture des générations, mais on le voit bien, il y a une évolution dans le temps et des jeunes femmes occidentales qui préfèrent d'abord assurer leur carrière. Et ça renvoie à la politique nataliste. Ben exactement, leur carrière, leur salaire. Enfin, et ça renvoie à la politique nataliste et à ce qu'on peut faire pour aider les familles dans ce pays et aider les femmes, puisque une des spécificités qui se cache derrière la natalité française, c'est que justement, en France, malgré tout, même si c'est difficile à entendre pour les gens qui n'en bénéficient pas, il y a pas mal de crèches, etc. C'est absolument pas le cas en Allemagne, par exemple. Après, la natalité française, elle n'est pas excellente. Simplement que celle des pays qui nous entourent est absolument calamiteuse. Le seuil de renouvellement des générations, c'est 2,1 enfants par femme. Nous, on doit être légèrement
en dessous.
Mais il y a des pays comme la Hongrie ou l'Italie ou même l'Irlande qui sont tombés à des 1,2, 1,3. C'est un véritable vertige civilisationnel qui s'est saisi de l'Europe. Et il y a à la fois des mesures effectivement précises, mais en Hongrie,
pour le coup, il y a une politique nataliste extrêmement volontaire et pas de natalité.
Nathan Devers, sur cette natalité.
Bah écoutez, j'espère que les gens qui nous ont confinés ou qui ont fait des couvre-feux ne vont pas utiliser cet argument pour,
oui,
pour recommencer,
répétition.
Parce que là, ça va, on a vraiment eu notre dose.
Samedi soir.
Et plus sérieusement, ce qui est très intéressant, c'est cette question de l'âge. De montrer que c'était plutôt des femmes âgées et pas jeunes. Parce que, je cite de mémoire cette étude, hein, mais en 2021, les jeunes, donc je crois que c'était les 18-25 ans, vous en avez 40% qui n'ont pas eu une seule relation sexuelle de l'année 2021. Donc si vous voulez, je pense qu'il ne faudrait absolument pas croire que les mesures sanitaires ont eu pour effet de rapprocher physiquement les gens. Je pense que ça a été vraiment l'inverse.
Bon,
d'abord parce
beaucoup.
Que les gens étaient enfermés chez eux. Mais je veux dire, même, il y avait même eu des études sur le premier confinement où des couples qui étaient confinés, enfermés chez eux à deux, même sans enfants, etc., que pendant tout le premier confinement, qui a quand même duré 2 mois, ils n'ont pas eu un seul rapport charnel entre eux. C'est très significatif. Et je pense qu'au contraire, ça a été plutôt le signe d'une diminution du désir. Vous savez, tout le motif des années 90, c'est le motif welbeckien de la misère sexuelle, c'est-à-dire des gens qui ont beaucoup de désir, mais qui ne parviennent pas à l'assouvir. Je pense qu'on a dépassé ce motif-là, et qu'on est arrivé dans une époque où, en tout cas en France, hein, le désir lui-même diminue. Et que c'est autre chose.
D'accord.
Et la montée de l'addiction à la pornographie, on est responsable. Effectivement, les chiffres que cite Nathan Devers sont très intéressants. Les jeunes générations, et pas seulement en France, dans le monde occidental de manière générale, n'ont jamais eu aussi peu, en tout cas sur l'histoire contemporaine récente, jamais eu aussi peu de relations sexuelles, alors que nous vivons dans une société qui est ultra sexualisée, avec des images qui renvoient au sexe
et qui sont
en permanence.
Violentes et choquantes.
Et précisément, ça en dit long sur le désir et sur la manière dont on l'a peut-être déconstruit.
Peut-être ont-ils aussi peur de l'avenir, tout simplement.
Oui, j'ajoute voilà, un climat très anxiogène, porté d'ailleurs par une certaine écologie qui culpabilise le désir d'enfant et la procréation, puisque ce n'est plus d'ailleurs le péché catholique de faire des enfants en mariage, maintenant c'est de faire des enfants pour polluer. Et donc en fait, on considère qu'avoir des enfants, c'est participer, avoir un bilan carbone, et je trouve ça absolument atroce de peser une vie humaine et tout ce qu'elle a de vertigineux en simple bilan carbone qu'elle va émettre le long de sa vie. Je trouve ça absolument monstrueux, et c'est une écologie absolument technocratique qui résume l'homme à une addition d'émissions carbone, et je trouve ça monstrueux.
C'est pas le discours dominant, Dieu merci.
Oui, mais c'est pas le discours dominant, mais si j'ai une partie de la jeunesse, c'est un discours qui a beaucoup d'impact.
Sans doute.
Et j'entends, moi, de plus en plus de jeunes qui disent on ne veut plus faire d'enfants parce que ça pollue la planète et que finalement.
Et
tout cours, dans les mots.
L'éco-anxiété, peut-être, oui. Au-delà de effectivement, ce discours qui est assez marginal.
Quelle planète
mais,
pour
mais
nos
y a
enfants.
L'éco-anxiété, le simple fait d'avoir de la peine à se projeter dans l'avenir.
En tant que critique littéraire, je dois dire que le succès des romans de Michel Houellebecq ne doit pas aider, puisqu'évidemment, la manière dont est présentée la sexualité sous le jour de la misère la plus totale, surtout la sexualité masculine, je pense que.
C'est un roman anéantir, effectivement.
Anéantir, oui, il a anéanti peut-être une partie de notre natalité aussi. En tout cas, si vous voulez faire des enfants, ne lisez pas Houellebecq. Attendez d'avoir 3 enfants et ensuite.
On lance pas le débat sur Houellebecq. On fait une toute petite pause. Nathan, allez, je vous donne un dernier mot.
À mon avis, pas seulement cette anxiété, c'est la question économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le blocage de l'immobilier en France qui fait que c'est la grande différence par rapport à il y a 40 ans où les gens qui vont faire des enfants, la première question qui se pose, c'est mais on peut pas le loger. Donc ils font moins d'enfants, c'est tout à fait logique.
On n'a pas les moyens de loger.
Dans les grandes villes en général.
Plus de 10 000 euros du mètre carré.
Petite pause, on se retrouve dans un instant. On parlera de sécurité, de ce qui s'est passé à Villetaneuse avec les dealers qui font la loi, qui décident de qui rentre chez vous ou pas pour venir vous rendre visite. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
h 16, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant pour Punchline. On va parler de sécurité et du calvaire que vivent les habitants de certains quartiers mis en coupe réglée par les voyous et les trafiquants de drogue. Une mère et sa fille ont été roués de coups et même attaqués à coups de couteau dans leur domicile le 24 septembre dernier. Elles avaient osé demander aux délinquants de dégager, de les laisser tranquilles, de laisser rentrer les gens dans l'immeuble. Résultat, elles sont aujourd'hui terrorisées et elles demandent à être relogées d'urgence. Explication de Sybille Delettre et Florian Paume.
Les faits se sont produits dans une cité de Villetaneuse, samedi soir, vers 21h. Pensant ouvrir à un livreur, une mère de famille se retrouve nez à nez avec 3 individus au visage dissimulé, qui, après avoir forcé la porte de son appartement, la roue de coups.
Quand j'ai ouvert la porte, j'étais aspergée de la banque limogène. À quelqu'un qui m'a donné un coup de poing. Après, je suis tombée par terre. Quand je suis tombée par terre, et là, il a commencé à me donner des coups de couteau. Je peux vous montrer mon bras.
Sa fille de 14 ans tente de la défendre et est à son tour frappée et poignardée. Si aucune piste n'est écartée pour l'instant, cette agression pourrait être liée à la présence de dealers dans le quartier qui contrôle les accès à la cité.
On a peur, quoi. On passe devant eux, on a le cœur qui bat 100 000 à l'heure, on en tremble. J'ai le brevet, j'ai pas raté mon année, mais j'y vais à contre-cœur. Carrément, à la dernière heure de cours, j'ai envie qu'il y ait une autre heure de cours, juste pour pas rentrer chez moi.
Suite à ces événements, le maire de la ville a réagi dans un communiqué.
Ces comportements inacceptables n'ont pas leur place au sein de notre ville.
Une enquête a été ouverte pour violence volontaire en réunion avec armes, et la police a décidé de renforcer ses patrouilles dans le quartier.
Voilà pour la situation à Villetaneuse. Jenny Bastier, on est dans une société, une contre-société, où la loi, ben, ce sont les voyous, les gangs qui la font. Ils ont dit à ces deux femmes, c'est notre cité, voilà, c'est notre territoire.
Oui,
donc
c'est...
vous n'avez pas, vous obéissez à notre ordre.
Moi, je pense toujours à la phrase d'Emmanuel Macron sur la Seine-Saint-Denis, quand il avait dit c'est la Californie, parce qu'il y a des start-upers et des jeunes. Quand on voit ça, on a l'impression que c'est plus Gotham City que la Californie. Et c'est vrai que c'est choquant. On a l'impression que tous les jours, il y a des faits divers qui nous viennent de ces endroits-là. Il n'y a pas qu'en Seine-Saint-Denis, d'ailleurs, puisque Nantes aussi est au cœur en ce moment, dans l'actualité, de cette montée de la délinquance. Et j'entendais d'ailleurs un reportage sur France 2, j'ai vu un extrait tourné sur les réseaux sociaux, où on voyait une dame se plaindre des dealers en bas de chez elle. Elle avait les larmes aux yeux. Il y a un des dealers qui lui dit nique ta mère par la fenêtre. Et là, la journaliste s'est interrompue, a dit est-ce que le ressenti de cette dame est conforme à la réalité? Nous allons nous interroger. Et là, elle donnait une bardée de chiffres qui montraient que finalement, la délinquance n'augmentait pas tant que ça. Et je trouve ça absolument stupéfiant qu'on puisse encore relativiser cette montée de l'insécurité et de la délinquance. Et quand bien même, d'ailleurs, les chiffres, parfois, ne montrent pas cette montée de la délinquance, c'est tout simplement parce que les gens, en fait, changent de comportement. Ils changent de trottoir, ils ne sortent pas le soir, ils évitent certains quartiers, ils changent leur vie pour ne pas avoir affaire à ces voyous. Et donc, effectivement, ça ne se voit plus dans les chiffres puisqu'ils ne se font plus agresser, mais leur vie est pourrie. Et ça ne se voit pas forcément dans les chiffres. Et donc, ce déni qui continue, finalement, de façon plus pernicieuse peut-être qu'avant et moins claire, moins naïve, ce déni qui continue à être installé est absolument insupportable et je crois qu'il est temps de se réveiller.
On verra Nantes dans un instant, Eric Nolot, sur ce qui se passe à Villetaneuse.
Il n'y a que deux solutions, ou c'est l'État qui fait la loi ou ce sont les dealers qui font la loi, et il y a des coins de France où ce sont les dealers qui font la loi et les gens se soumettent à cette autorité parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que c'est ça, ou alors il faut vivre ailleurs, ou alors ils vont perdre leur vie. Mais ce qui est particulièrement effrayant, je sais qu'on va venir à Nantes, mais à Villetaneuse, on parle de reloger les gens. C'est un peu ce qu'on entend dans des histoires de mafia en général. Quand on voit les unités d'élite qui sont envoyées à Nantes, les unités d'élite des CRS, ça fait un peu penser aux descentes de la police brésilienne dans les favelas. Donc on est en train de basculer dans un mix d'Italie mafieuse et de Brésil délinquant. Alors, Villetaneuse, dans le 9-3, il y a beaucoup de problèmes, mais ça atteint même des villes qui étaient sans histoire jusqu'à une date très récente, comme Nantes, qui n'était absolument pas associée à la délinquance, qui était associée à une certaine douceur de vivre, à quelque chose de la douce France. Eh bien, ça a beaucoup changé.
Vous avez raison. On va tout de suite partir à Nantes. Je vous passerai la parole ensuite à Nathan Devers et Jean-Sébastien Ferjou. Nantes, on a beaucoup parlé de l'insécurité à Nantes, à tel point que le ministre de l'Intérieur a décidé d'envoyer cette fameuse compagnie, la CRS-8 que vous venez d'évoquer, Eric Nolot. C'est une compagnie spécialisée dans le maintien de l'ordre dans les quartiers sensibles. Là, notre correspondant Michael Chaillou a passé la soirée avec eux dans le centre-ville de Nantes. Écoutez son reportage.
Allez, c'est parti.
C'est la technique de la NAS. En quelques secondes, la place Manès-France, au cœur du quartier Bellevue de Nantes, est cernée et quasiment tous les individus sont contrôlés. 80 fonctionnaires de la CRS-8 sont présents pour aller au plus vite au contact.
Alors, l'objectif, c'est qu'on puisse rapidement mettre en place des appuis de manière à ce que l'ensemble des personnels investiguent le quartier, arrivent directement sur les points de contrôle et éventuellement les points de deal, ce qui était le cas là actuellement.
La deuxième étape est programmée sur un lieu de trafic où il y a deux jours, un policier a été renversé par un individu à scooter. Très mobile, les CRS s'engouffrent dans les étages et visitent les caves. En centre-ville de Nantes, en fin de soirée, la présence de ces fonctionnaires spécialistes des quartiers sensibles rassure les commerçants.
Ça fait plaisir de voir la présence policière comme ça et on aimerait bien qu'elle soit 24 sur 24.
En permanence.
En permanence.
Le bilan est maigre, une interpellation et quelques saisies de stupéfiants, mais l'essentiel est ailleurs, montrer les muscles dans une ville où le sentiment d'insécurité s'installe.
Voilà pour ce reportage à Nantes. Nathan Devers, il s'agit de reprendre des territoires, en fait, de récupérer des territoires qui sont livrés à la délinquance.
Franchement, ça fait presque de la peine de voir ces images-là. Se dire, qu'est-ce qu'on a attendu pour faire ça, pour prendre en main ou en mettre en visibilité, en lumière, tout simplement, cette question-là de la sécurité à Nantes. Restons même sur le cas de Nantes, ne parlons pas de la France en général. Il y a quelques jours, vous savez, il y a eu une femme qui a été violée à Nantes en pleine journée dans un...
Très tôt le matin, 7h du matin, ouais.
C'était dans la journée, c'était pas dans la nuit et qui a été violée. Et puis vous avez eu l'adjoint à la sécurité de Nantes qui a dit ah oui, écoutez, c'est dramatique, mais les chiffres montrent quand même que toutes ces situations-là descendent, il y en a de moins en moins, etc. Et ça, c'est un des signaux, des symptômes de ce déni dont parlait Eugénie Bastier, qui est un déni en quelque sorte technocratique ou numérique, numéraire, enfin de s'intéresser, de voir le réel à travers les nombres. Ouais. On passe totalement à côté de la chose qui est majeure, c'est-à-dire que c'est pas une question de savoir si c'est un sentiment ou pas, c'est ce que les gens ressentent comme peur dans leur quotidien. Donc à partir de là, si on n'est pas capable de gérer ce problème, de le faire de manière sereine, de manière républicaine, de manière constante. Parce que là, ce qui est important aussi, c'est que quand il y a les projecteurs médiatiques, c'est une chose, hein. Mais si c'est juste pour faire venir de temps en temps, donner l'impression qu'on fait quelque chose pour qu'après ça revienne à la normale, c'est-à-dire à l'anormale, dans une situation qui est anormale, eh bien, c'est un blocage et qui peut être très dangereux pour la démocratie.
Eugénie Bastier.
Oui, parce que en fait, c'est toujours cette idée du sentiment d'insécurité qui ne se retrouverait pas finalement dans les chiffres de la délinquance. Et en plus, déjà, c'est faux parce que les chiffres montrent effectivement une montée de l'insécurité. Alors, certes pas en termes d'homicide, mais en termes de petits actes gratuits du quotidien, d'agressivité, d'actes comme ça, d'agressions gratuites, ce qu'on appelle les agressions gratuites. Et deuxièmement, enfin, comme je le disais tout à l'heure, c'est que les gens, en fait, finalement, adaptent leur comportement. Ils ont peur. Et même s'ils ne se font pas, quand ils vont à la confrontation de la délinquance, comme ces femmes qu'on a vues tout à l'heure, effectivement, il y a des agressions, elles se font poignarder, etc. Donc, elles n'y vont pas à la confrontation. Elles évitent, en fait. Et ça crée des ségrégations. C'est-à-dire que des familles ou des personnes qui veulent être tranquilles, finalement, évitent ces groupes-là. Et on aboutit à une partition territoriale. Alors, peut-être que, finalement, ça se traduit pas dans les faits par plus de délinquance, mais ça montre une vie pourrie absolument monstrueuse où les gens sont séparés, où les gens ont peur. Et ça, l'État, la force publique doit s'en emparer.
Jean-Sébastien Fourgeau, dans Atlantico.
Oui, mais déjà sur les chiffres même, effectivement, il y a bien des moyens de présenter la réalité. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les études de victimologie, parce que là, on voit une montée conséquente des faits dont parlent les gens, parce que bien souvent, un certain nombre de personnes, à commencer par la mère et la jeune fille de Villetaneuse, elles n'étaient pas forcément allées porter plainte. Non. Parce que en plus, il y a les gens qui renoncent à aller porter plainte parce qu'il y a une forme de désespoir. Et il y a aussi, quand vous allez au commissariat et qu'on refuse d'enregistrer votre plainte, parce qu'on vous dit « Ah non, ça, on prend pas la plainte », qui arrive quand même très régulièrement, soit parce que les policiers eux-mêmes sont dans une forme de désespoir, soit parce que, enfin, débordés, ou en tout cas qui se disent finalement ça ne servira à rien, ça va juste enclencher du travail administratif, et en plus on demande au commissaire en général de gérer les statistiques de manière à ce qu'elles soient avantageuses. Les chiffres eux-mêmes, il y a bien d'autres manières de les faire évoluer. Regardez sur le nombre d'homicides dont on parle, les progrès de la médecine d'urgence font aussi que vous avez plus de chances d'être soigné et de survivre à une attaque au couteau aujourd'hui qu'il y a 30 ans, par exemple. Donc ça n'a pas beaucoup de sens de dire, ben, regardez, la violence, ça a existé. Oui, ça a existé toute éternité. C'est la nature humaine. Il y a quand même une dégradation. Après, la volonté politique, ça existe. Il y a d'autres pays qui ont réussi à inverser des situations. En Colombie, par exemple, la ville de Medellín, qui était un cauchemar absolu il y a 20 ans, est devenue une ville qui est très sûre. Quand vous regardez le Danemark est un pays qui a réussi aussi qui voyait un début de dérapage dans un certain nombre de quartiers, qui a réussi à reprendre la situation en main, là où la Suède est confrontée à une guerre des gangs qui flambent. Donc cette espèce de désespoir à la fois des habitants et peut-être parfois aussi des politiques qui ont l'impression que la situation nous dépasse. Non, il n'y a pas de fatalité, il n'y a que du renoncement politique. C'est pas facile, mais il n'y a que du renoncement politique.
On peut prendre aussi l'exemple de la ville de New York dans les années 90, avec la politique de tolérance zéro mise en place par le maire. New York, entre les années 60 et les années 90, avait eu plus de 300% de criminalité et de délinquance. Il avait inversé la tendance jusqu'à récemment, où effectivement la criminalité est remontée parce qu'on a abandonné cette politique de tolérance zéro. Ce qui montre bien que là où il y a une volonté politique, il y a la possibilité de faire baisser l'insécurité et que la mairie de Nantes a une responsabilité.
Il prenait tous les SDF, il le mettait en dehors de la ville aussi. Hein. Oui. Voilà.
Peut-être,
déplaçait juste le problème.
Oui, il déplaçait peut-être le problème.
Il le déplaçait.
Mais en attendant, il y avait quand même une politique de fermeté qui a porté aussi ses fruits sur le. Parce que voilà, les délinquants ne basculaient pas forcément dans la grande criminalité. Et à Nantes, je suis désolée, mais il y a une responsabilité de la mairie aussi, un angélisme, une tardivité à reconnaître les faits. Mm-hmm. Parce que, alors ils disent finalement, oui, Nantes est devenue une métropole, on ne l'avait pas anticipé que. Quand Nantes deviendrait une métropole, la délinquance allait exploser. Oui, mais ça s'anticipe. Il y a d'autres villes de la même taille que Nantes qui n'ont pas les mêmes problèmes. Pensons à Nice, par exemple, ou à Cannes, qui sont des villes gérées par des maires de droite, qui ont anticipé cette montée d'insécurité et mis en place des politiques.
Éric Nolot.
Entre Nice, d'un côté, la Côte d'Azur, et puis Nantes, il y a une sociologie.
Il y a plus de retraités, je suis d'accord.
Une sociologie assez
mais
assez
la
différente.
Sociologie de Nantes était...
Simplement, avant d'examiner les solutions, il faut juste reconnaître la réalité. Nantes, ça commence à être spectaculaire, le retournement. Parce qu'il y a encore quelques jours, tout ça, c'était des histoires. Elle ne voulait pas tomber dans l'hystérie. La maire de Nantes, elle confond l'hystérie et la réalité. Il faut sortir déjà de cette confusion.
Il ne faut pas sous-estimer l'influence d'un certain nombre de discours politiques, justement, qui théorisent le fait, alors on en parlait tout à l'heure, que ce soit la misère qui mécaniquement crée l'insécurité, etc. Là, à Los Angeles, il y a un exemple qui est très intéressant. Il y a un milliardaire qui s'est offert le Los Angeles Times. Et puis, il a mis sa fille à sa tête, et sa fille est une militante woke. Donc, elle n'a de cesse de militer pour qu'il y ait moins de fonds pour la police. Mais toutes les villes aux États-Unis où il y a eu ces campagnes de defund de police, donc à qui on a coupé les budgets pour les policiers parce qu'ils étaient soupçonnés de racisme systémique, sont des villes où la délinquance a explosé. Et qui en sont les victimes? Ce sont les gens, justement, ce sont les minorités elles-mêmes. En général, le nombre d'homicides chez les jeunes noirs aux États-Unis a explosé après Black Lives Matter parce que la police s'est retirée de ces quartiers tellement, on lui coupait les ailes, et de deux, elle avait peur de faire face à des accusations de racisme. Donc je crois qu'un certain nombre de responsables politiques ou médiatiques, d'ailleurs, qui, pour faire étalage de vertus, parce que c'est vrai, ça paraît toujours mieux quand on dit qu'on fait attention à la misère humaine, etc., sont profondément responsables du dérapage sécuritaire que nous connaissons.
Pour ajouter un dernier mot, c'est vrai qu'il y a un discours aussi à gauche et à l'extrême gauche, celui de Bourdieu, par exemple, qui disait « les faits divers font diversion », qui disait que finalement tous ces faits divers agités par les médias n'étaient pas des faits de société. Ce qui est une contradiction, parce qu'aujourd'hui même, la gauche, par exemple, à propos des féminicides, ne cesse de dire que ces faits divers que sont les féminicides sont un fait de société. Et ils ont peut-être raison. Mais par contre, quand il s'agit des agressions, de l'insécurité dans la rue, des viols en pleine rue, ça ne sont pas des faits de société. Ce deux poids deux mesures est absolument insupportable. Et il faut reconnaître que non, les faits divers ne font pas diversion et que des faits divers accumulés, répétitifs, par centaines dans les villes de France, c'est un phénomène de société.
Il est 18h30, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews. Tout de suite, le rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
La principale d'un collège public agressée par une mère d'élèves à Fougères en Ille-et-Vilaine. Mardi, elle se présente dans l'établissement à la suite d'un incident intervenu le matin entre sa fille scolarisée en 3e et un autre élève. Au cours d'une discussion, la mère pousse la chef d'établissement, la victime bascule et se heurte la tête contre un radiateur. La parente d'élève a été placée en garde à vue. La hausse des prix de l'énergie risque d'avoir des conséquences terribles pour certaines entreprises européennes. Des milliers d'entreprises seraient menacées selon Business Europe, une organisation représentant le patronat européen. Les prix élevés du gaz et de l'électricité font peser un risque imminent de perte de production. L'organisation réclame donc davantage d'aide d'État aux entreprises en difficulté. Le mouvement MeToo fête ses 5 ans en 2017. L'actrice américaine Alyssa Milano publie un message invitant les femmes victimes de harcèlement sexuel à témoigner sur Twitter en utilisant le hashtag MeToo. Des centaines de milliers de femmes partagent alors le hashtag pour dénoncer des violences sexuelles et sexistes. Ce mouvement a provoqué un séisme dont les secousses continuent de résonner, mais il reste un long chemin à parcourir pour éradiquer ces comportements.
Voilà, 18h, bientôt 31. Une petite pause. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews pour la suite de Punchline. On reviendra sur l'affaire Adama Traoré avec la publication de ce livre « Mon fils n'est pas un assassin ». Il s'agit de la mère d'un des gendarmes impliqués dans cette affaire qui décide de rompre le silence. A tout de suite dans Punchline.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On est en direct sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline. On est toujours avec Éric Nolot, Nathan Devers, Jean-Sébastien Ferjou et Eugénie Bastier du Figaro. On accueille un autre journaliste, Erwan Seznec. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Journaliste au Point. Vous publiez ce livre d'entretien avec Virginie Gauthier qui s'appelle « Mon fils n'est pas un assassin », l'affaire Adama Traoré, la contre-enquête aux éditions Robert Laffont. Merci d'être avec nous ce soir.
dans ce livre qui paraît aujourd'hui, Virginie Gauthier, donc la mère de l'un des trois gendarmes impliqués dans l'interpellation d'Adama Traoré, décédé en 2016, je le rappelle, après son arrestation à Beaumont-sur-Oise. Elle rompt le silence pour expliquer son ressenti sur cette affaire. Le livre sort alors que le dossier, je le précise encore, n'est pas bouclé, que la famille Traoré et les trois gendarmes attendent les résultats d'une 10e expertise médicale sur les causes de la mort d'Adama Traoré. On va écouter, si vous le voulez bien, Virginie Gauthier. Elle explique pourquoi elle sort de son silence, pourquoi elle se bat pour dire que son fils n'est pas un assassin. Témoignage ce matin chez Pascal Praud.
C'est très long. Et ça continue. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas une réponse de la justice, ça continuera à être très long et très douloureux. L'espace médiatique qui a été offert à Assia Traoré et au comité Adama, c'était pas un espace, c'était un boulevard, c'était énorme. Et en face, il y avait le silence. Il y avait le silence. Et c'est vrai que toute seule, chez moi, j'avais l'impression de prendre des coups à chaque fois. C'est-à-dire que lire que mon fils était un assassin et qu'en plus, il avait prémédité que c'était par vengeance, il avait assouvi une vengeance. J'avoue que c'était très, très, très dur. Je ne sais pas si la justice a peur. Je ne dirais pas comme ça. Je pense qu'elle est prudente et qu'elle a des pressions, effectivement, médiatiques très, très, très fortes. On l'a vu encore la semaine dernière, puisque Maître Bouzerou essaye de discréditer la juge d'instruction en disant qu'elle est partiale. Donc, je trouve ça énorme et que ça continue. Autrement dit, s'il obtient gain de cause, c'est-à-dire qu'on va la dessaisir, il va falloir renommer un juge et il va encore perdre des mois. Mais on dira que la justice est lente et que c'est de la cause des gendarmes.
Voilà pour le témoignage de Virginie Gauthier ce matin chez Pascal Praud. Erwan Seznec, elle décide de prendre la parole au bout de 6 ans. Les gendarmes qui sont mis en cause dans l'affaire ne peuvent pas prendre la parole. C'est une affaire grave, il y a eu la mort d'un homme. Pourquoi est-ce qu'elle décide maintenant de parler ?
Pour établir la balance, on a entendu un seul son de cloche et surtout on a eu des gens maltraités parce qu'ils sont déshumanisés en fait. Les journalistes ou les militants qui tapent sur la gendarmerie et la police dans cette affaire ont l'impression de s'attaquer à un moloch administrativo-étatique. Ils oublient que derrière, il y a des gens comme Virginie dont la vie a été ruinée. Elle l'a raconté ce matin, elle a fait une dépression, elle a failli y rester. La vie de son fils est également très très malmenée. Donc c'est pas désincarné. Mm-hmm. Il y a des victimes derrière tout ça. Les gens qui pensent se battre pour le beau, le juste, le bon en défendant Adama Traoré oublient un peu ça trop facilement. C'est pour ça qu'elle parle.
Mm-hmm. Et il y a aussi une victime qui s'appelle Adama Traoré.
Bien sûr.
Elle comprend la douleur de la famille aussi. Il y a de l'humanité évidemment, de la compassion.
Bien sûr, elle a elle-même des enfants, évidemment. Elle est tout à fait sensible à ça. Elle a manifesté à la mémoire de George Floyd à Nantes, parce qu'elle a également été militante antiraciste dans sa jeunesse. Donc évidemment, Adama Traoré est mort, paix à son âme. Mais je veux dire, ruiner la vie d'une famille ne ressuscitera pas Adama Traoré.
Mm-hmm. Eugénie Bastier, sur cette affaire, sur l'instrumentalisation, la caisse de résonance médiatique qui a été donnée après cela, après les événements.
Il me semble que cette affaire a pris une ampleur telle parce qu'elle a suivi, enfin, les mobilisations en tout cas de la famille Traoré ont suivi celle de suite à l'assassinat de George Floyd aux États-Unis, et c'est là qu'elle a pris un peu une seconde vie cette affaire. Et on a plaqué ce qui s'est passé aux États-Unis avec la mort de George Floyd sur cette affaire-là, alors qu'elle n'a strictement rien à voir. Et d'ailleurs, Assia Traoré elle-même a changé de discours. Il y avait un très bon portrait dans Libé qui montrait très bien que avant l'affaire George Floyd, elle tenait un discours en disant c'était violence policière. Et ensuite, elle avait tout un discours sur le racisme de la police. Elle a voulu raciser cette affaire. Mmh. Et elle-même a été... Elle s'est embrigadée dans cette idéologie-là. Et effectivement, je crois que c'est là l'erreur majeure de cette affaire. C'est qu'on plaque l'histoire des États-Unis et les violences policières qui peuvent exister aux États-Unis sur la France, alors que tout ça n'a rien à voir. Et je crois, enfin, je ne connais pas la complexité de cette affaire dans les détails, mais en tout cas, il me semble que ce schéma binaire qu'on applique est absolument faux et délétère. Et encore une fois, vous l'avez dit, c'est très important de le dire, ça brise des vies au-delà de la vie perdue d'Adama Traoré tragiquement. Ça brise des nouvelles vies et au nom du bien, finalement, on balaye encore une fois la justice.
Ce que vous avez voulu dire aussi, Erwan Seznec, c'est que on a voulu faire des forces de l'ordre global, parce qu'on a englobé police et gendarmerie, l'incarnation du racisme d'État. C'est
tout à fait. Alors qu'il y avait deux gendarmes qui étaient de couleur, d'origine antillaise ou d'origine africaine, parmi les 6 qui ont procédé à l'interpellation. La gendarmerie a choisi de ne pas communiquer là-dessus. Bon, c'était une position noble. Après, On vit à l'heure des réseaux sociaux. Est-ce que la gendarmerie elle-même ne doit pas revoir ses plans com? Mais ce qui est important aussi à retenir, c'est que finalement, tout le monde est perdant dans cette affaire. Parce que, comme me le disait un confrère, pour illustrer le combat nécessaire contre les violences policières, Adama Traoré est peut-être une tragique erreur de casting. Tout simplement parce qu'il n'y a rien eu. Et là, à l'arrivée, le comité Adama ne rendra service à personne, ni à Virginie, ni à la cause qu'il prétendait défendre.
Où est-ce qu'on en est là? Je le disais, donc 10e expertise médicale. Pourquoi est-ce qu'il y a eu 10 expertises médicales? Est-ce qu'elles sont retoquées les unes après les autres, c'est ça? Pour savoir quelles sont les causes de la mort de ce jeune homme?
Adama Traoré a été inhumé après la 2e autopsie. Donc les 8 autres, en fait, sont des relectures de travaux déjà faits. La 10e en cours, ou la 11e, peu importe comment on compte, sauf coup de théâtre extraordinaire, ne renversera pas la table. Donc, c'est peut-être le seul point où on est d'accord avec le comité Adama, cette instruction n'est pas tout à fait normale.
Trop lente?
On dira toujours que le temps de la justice, etc. Mais là, non, 11 expertises, il y a un problème.
Éric Nolot, sur cette
affaire. Oui, moi, c'est une affaire que je suis de très près, qui me passionne parce qu'elle me paraît emblématique à bien des égards. Et ce qui est frappant, c'est que en effet, le comité Adama Traoré, en fait, n'a eu de cesse d'imposer deux contre-vérités. La première, c'est Eugénie l'a exposé. Adama Traoré, c'est George Floyd. Il n'y a qu'à se pencher, même de manière superficielle, sur le dossier pour voir que ça n'a vraiment aucun sens. Et puis l'autre, c'est, de toute manière, en effet, je fais là écho au titre du livre, les gendarmes sont des assassins et nous n'admettrons aucune autre conclusion. Mm-hmm. Donc on part de ce présupposé et l'enquête... Et en menaçant qu'il y ait des émeutes, etc., l'enquête doit prouver notre intime conviction qu'il a été assassiné. Donc il y a un déni de justice, et puis toute la mouvance islamo-gauchiste qui soutient Assa Traoré souffle sur les braises pour en faire une arme anti-police, anti-État, et raciser cette affaire qui est dramatique, mais à laquelle on veut faire porter un chapeau trop grand, à mon avis.
Je vois bien vraiment le mimétisme et l'envie de ressembler aux États-Unis de la part d'une certaine gauche qui voulait avoir son George Floyd français, qui voulait à tout prix finalement avoir cette victime emblématique qui allait enfin faire bouger les choses, qui allait déclencher une campagne type BLM, Black Lives Matter en France. Et effectivement, vous l'avez dit, erreur de casting, ils ont saisi cette affaire qui n'a strictement rien à voir, tout simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé de cas de racisme avéré de la police française et comparable à ce qui s'est passé aux États-Unis. Et je crois qu'on est vraiment dans cette espèce de folie mimétique induite aussi par ce climat des réseaux sociaux et cette espèce de folie planétaire qui a gagné le monde entier après la mort de George Floyd.
Erwan Sezek, vous publiez ce livre « Mon fils n'est pas un assassin », dans lequel vous racontez ce qui s'est passé ce soir-là, d'après les gendarmes, parce que j'imagine que ça, c'est le récit des gendarmes. Expliquez-nous, c'est-à-dire que la patrouille se dirige vers la gendarmerie de Beaumont-sur-Oise et ils s'aperçoivent que Adama Traoré commence à avoir la tête qui tombe, c'est ça?
Oui, c'est un fait divers. Hein. Franchement, là, c'est une pyramide inversée. La base factuelle, c'est ça, et la construction médiatique, c'est ça. Les gendarmes viennent interpeller un dealer, Bagui Traoré, son frère est présent, Adama, il prend la fuite alors que Bagui se laisse arrêter sans problème. Les gendarmes le coursent, ils le rattrapent, il a piqué deux sprints par une température de 34 degrés, il fait un malaise dans la voiture, ils arrivent à la gendarmerie et son cœur lâche. Voilà. Après, je ne suis pas légiste, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, peut-être qu'on ne le saura jamais, mais il y a quand même chaque année 1000 personnes qui décèdent d'un arrêt cardiaque brutal après un effort physique intense. Ça fait 20 par semaine. Donc, il n'y a pas... Et on a des éléments très solides dans le dossier d'instruction qui montrent qu'Adama Traoré n'était pas dans une forme étincelante. C'était une force de la nature en apparence, mais l'autopsie a montré qu'il avait une faiblesse cardiaque.
On va écouter à nouveau la mère d'un des gendarmes qui a procédé à cette interpellation, Virginie Gauthier. Elle dit à quel point elle en a marre, à quel point elle trouve le temps long sur cette procédure judiciaire qui n'en finit pas. Témoignage, écoutez-la.
J'en en a marre, ça suffit. Je veux que ça s'arrête. Voilà. Je veux que chacun retrouve la paix, qui que ce soit d'ailleurs, aussi bien la maman d'Adama Traoré que nous, mais qu'on sache... Ceci, je ne me fais pas d'illusions sur la suite. Hein.
C'est-à-dire ?
Tous les mois de juillet, il y aura une cérémonie parce qu'il aura été assassiné par les gendarmes. Ça restera dans la mémoire collective. Ça fait trop d'années qu'on entend ça. On attend le compte-rendu de la dernière enquête qui a eu lieu auprès des médecins belges. Et après, les médecins belges qui étaient, paraît-il, des gros nuls. Et puis quand ils ont rendu leur premier rapport, ils n'étaient plus nuls du tout. Donc moi, j'attends. Je ne suis pas forcément sereine, mais j'attends. Je trouve que c'est très long. C'est très long et ça va.
Voilà pour le témoignage de la mère de ce gendarme. Jean-Sébastien Ferjou, sur cette affaire Adama Traoré.
Ça m'évoque deux choses. Je trouve ça étrange de la part de la justice, finalement, d'être aussi perméable. Alors, la justice n'est pas isolée du reste de la société, mais d'être aussi perméable à la pression médiatique, parce que ça a été dit et expliqué. Cette succession d'expertises, elle n'a en réalité pas beaucoup de sens. Elle ne permettra pas d'éclairer plus la vérité que ce qu'on sait déjà. Donc là, on voit que la justice, délibérément, essaye un peu de se débarrasser de la patate chaude pour reporter une conclusion à plus tard. Et la deuxième chose que ça m'inspire, c'est nous n'avons pas encore véritablement intégré ce que c'est que de vivre dans une société aussi saturée médiatiquement que la nôtre, avec les réseaux sociaux, avec les médias et les prises de parole qui se multiplient. C'est-à-dire, il y a deux choses. Il y a la douleur de la famille Traoré qu'on peut entendre, qu'on peut comprendre. C'est toujours une tragédie. On peut évidemment entendre aussi la douleur des familles des gendarmes et des gendarmes eux-mêmes, parce que c'est extrêmement violent d'être désigné comme ça, en quelque sorte un peu à la vindicte populaire. Puis après, il y a nous tous les témoins. Il y a tellement de gens qui font de l'étalage de vertu sur les réseaux sociaux qui finalement se préoccupent peu de la réalité d'une histoire ou d'une autre. C'est simplement, on s'en empare parce que c'est comme un accessoire de mode ou quelque chose ou un pin's que vous mettriez pour regarder comme je suis une belle personne. Et cette tentation-là, je crois que on parlait d'éducation un peu plus tôt, il faut aussi que nous nous habituions à savoir réfréner nos propres instincts, vouloir commenter tout en permanence, tout et son contraire, sans savoir toujours de quoi on parle. Parce que là, en l'occurrence, oui, je crois qu'il y avait une erreur de casting et que ce cas-là était tout sauf le bon cas pour éventuellement lutter contre les cas de racisme dans la police ou les cas de violence qui peuvent arriver parfois au sein de la police.
Erwan Seznec.
Une petite précision sur les réseaux sociaux. Vous avez raison, hein. Mais les phrases les plus dures, les plus cinglantes sur Assa Traoré, je les ai trouvées sur la page Facebook du comité Vérité pour Adama. Quand elle a accepté de porter des chaussures d'une marque très connue qu'on ne peut peut-être pas citer à l'antenne, voilà. Quand elle a accepté de porter un t-shirt de créateur à 450 €, quand elle allait à la Fashion Week pour porter partout le message de la révolution prolétarienne et citoyenne, c'était un torrent d'invectives de son propre camp. Donc les réseaux sociaux aussi peuvent se retourner contre les gens qui en abusent.
Mais il y a quelque chose de plus spectaculaire, c'est qu'il y a eu un aller-retour vers les États-Unis, où elle a été érigée en icône de la lutte contre le racisme. Donc le modèle George Floyd, en fait, est revenu, a fait l'aller-retour des deux côtés de l'Atlantique.
Je crois qu'on n'a pas mesuré encore, et je pense qu'au fil des années, on reviendra avec recul sur ce moment qu'a été l'affaire George Floyd et la manière dont elle a été réceptionnée dans le monde entier, y compris en France. On était on sortait du confinement, d'une année de Covid.
Après avoir été interpellé par un policier blanc.
Voilà, on était en juin 2020, on sortait du Covid. Il y avait, je pense d'ailleurs, on en parlait avec Nathan Dever tout à l'heure, mais la pression de ce confinement, en fait, s'est un peu libérée dans cette affaire George Floyd de façon planétaire. Enfin, il y a quelque chose comme une espèce de décompensation planétaire. Et je me souviens de tous ces gens qui mettaient leur profil noir sur Facebook, sur Instagram. Il y avait une espèce d'hystérie collective. Alors, évidemment que ce meurtre était atroce, il n'est pas du tout question de le relativiser ou non. De dire... Mais il y avait une espèce de... Chacun, il y a une espèce de transe mondiale et l'affaire Adama Traoré s'est greffée à cette folie collective et on a à tout prix voulu la calquer en France, encore une fois, de façon complètement inappropriée.
Nathan Dever, votre regard de philosophe sur cette histoire.
Alors moi, justement, je tiens à le préciser, parce que c'est très important, je ne connais pas les détails du dossier et comme le disait très justement Jean-Sébastien Ferjou, quand on ne connaît pas les détails d'un dossier dans une affaire très précise comme ça, il ne faut pas s'en emparer dans un sens ou dans l'autre. Mais j'aurais une remarque à faire, c'est qu'il y a peut-être une... pour étendre à toutes les affaires de violences policières, que ce soit en banlieue, que ce soit dans des manifestations, que ce soit des affaires de maintien de l'ordre, etc., où ça tourne mal. Je pense qu'on peut faire une critique de toute institution, quelle qu'elle soit, notamment de la police, notamment de la gendarmerie, on peut faire cette critique. Mais l'erreur qui peut être faite, c'est quand cette critique, elle est individuée. Ça veut dire quand on s'en prend à tel policier, tel gendarme. Le vrai sujet, à mon avis, c'est un sujet de doctrine, c'est un sujet de méthode de maintien de l'ordre, c'est un sujet de hiérarchie, c'est un sujet de conditions de travail, c'est un sujet éventuellement de formation. On sait qu'aujourd'hui, avec les baisses de budget, il y a moins de formation dans la police, il y a moins de formation dans la gendarmerie. Donc c'est un système, un sujet, à mon avis, de critiquer aussi un environnement de travail. Et si on s'en tient, et je dépasse l'affaire Traoré, dont je précise, je ne connais pas les tenants factuels et les aboutissants factuels. Mais si on s'en tient à la question de dire est-ce que tel ou tel individu est gentil ou méchant, en gros, si vous voulez, c'est un sujet qui est beaucoup plus compliqué et qui est précisément structurel.
Erwan Seznec, vous qui avez écrit ce livre, le nom des trois gendarmes a été jeté en pâture. Enfin,
tout à fait.
Ils ont été désignés, nommément. Assa Traoré les a désignés.
Assa Traoré les a désignés. Leur nom a été tagué sur les murs des cités dès le jour de la mort d'Adama, avec des menaces de mort. Ils ont été expiés très, très, très rapidement. C'est allé loin. Ils ont eu peur pour leur vie. Leurs proches ont eu peur pour leur vie.
Aujourd'hui, quelles sont les charges qui pèsent sur eux exactement?
Personne n'est mis en examen dans ce dossier. Au bout de 6 ans, ce n'est pas commun. ils sont mis sous le statut de témoin assisté. Et pour le reste, il n'y a aucun élément tangible indiscuté qui accréditerait une responsabilité quelconque de la part des gendarmes.
Ce qui est encore une forme de déni de justice. Quand je vous parlais de la perméabilité de la justice à la pression médiatique, c'est une forme de déni de justice pour les personnes, pour les gendarmes concernés. Mais il y a un autre mot qu'on a employé, on est passé un peu vite dessus. Parce que vous le disiez tout à l'heure, la révolution prolétarienne est populaire. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement un combat, comme on nous l'affiche, contre les violences qui pourraient avoir lieu dans la police ou contre les cas de racisme qui peuvent exister dans la police comme ailleurs dans la société, c'est une volonté de révolution. Parce que le Black Lives Matter aux États-Unis, c'est ça aussi. Il y a le cas de George Floyd, mais derrière le cas de George Floyd, c'est une organisation néo-marxiste. Les fondateurs de Black Lives Matter, ce qu'ils veulent, c'est mettre à bas un système politique. Ça n'est pas faire justice à George Floyd, en tout cas pas uniquement faire justice à George Floyd. Et c'est quand même une forme d'escroquerie un peu politique ou médiatique que de faire croire à des gens de bonne volonté. Qui va dire « je suis pour le racisme, je suis pour les violences policières ». Évidemment que personne ne va, ou j'imagine qu'une écrasante majorité de nos concitoyens ne vont jamais soutenir ça. En revanche, quand on vous vend subrepticement cette volonté de révolution en se gardant bien de le dire, on passe à côté d'une dimension politique majeure de ces dossiers.
J'aimerais qu'on écoute un dernier extrait du témoignage de la mère d'un des gendarmes qui publie ce livre « Mon fils n'est pas un assassin ». Elle dit qu'elle a vraiment bondi lorsqu'elle a appris qu'Assa Traoré faisait des conférences dans à l'éducation nationale, lycée notamment. Écoutez ce qu'elle dit. Elle dit ça montre comment fonctionne la société française.
Elle montre la société française et elle montre la capacité qu'on a de pouvoir rentrer dans les failles. C'est-à-dire pourquoi pas dans les lycées. Donc c'est vrai que pour moi, ça a été là aussi encore un choc. Et puis du coup, on a écrit au ministre de l'Éducation nationale en disant « mais c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça ouais. ». Et là, il y a une réaction, mon grand plaisir finalement, parce que j'ai enfin été entendue quelque part, au moins là, en disant « non, on peut pas les laisser rentrer dans les lycées comme ça et dans les
collèges ». Bien sûr.
Voilà, il y avait des conférences, il y avait des interventions d'Assa Traoré dans les lycées et les collèges.
Tout à fait. Tout à fait. Elles se sont interrompues parce que Virginie a écrit au ministère et que le ministère a pris la question au sérieux. Mm-hmm. Mais sinon, ça aurait pu continuer assez longtemps, effectivement.
Mais Eric, Jean-Michel Blanquer, j'imagine.
C'est Jean-Michel Blanquer qui a pris le taureau par les cornes et qui a dit ça suffit maintenant.
Eric Nolot. C'est au fond ruiner la présomption d'innocence. Ça veut dire. Les gendarmes sont coupables, son frère a été tué par des gendarmes assassins, voilà, c'est reconnaître ça. Donc c'est complètement incompréhensible. Elle en a fait combien des conférences ?
Elle en a fait plusieurs, on n'a pas le nombre exact, mais ça doit... une petite dizaine peut-être.
Mais là encore, ça rencontre l'envie de croire, et on voit bien, c'est pas neutre que ce soit dans l'éducation nationale, parce qu'il y a des professeurs qui ont accepté, on voit bien que oui, nous tous, c'est pas réservé à la gauche ou à l'extrême gauche, nous tous, nous avons parfois envie de croire à une représentation du monde, et nous nous saisissons de faits dont nous avons l'impression qu'ils la confirment. Résistons quand il y a des individus, on peut avoir tous les débats qu'on veut, encore une fois évidemment, pas des débats d'ailleurs, mais essayer de mettre les choses à jour, comme le disait Nathan Devers, sur la formation, bref, les faits qui peuvent amener à la violence ou au racisme, mais quand des vies d'individus sont concernées, faisons attention à nos projections personnelles, à ces projections idéologiques sur finalement des choses qui nous échappent.
Erwan Seznec, quelles sont les prochaines échéances judiciaires ? Est-ce que vous avez une idée de la date, éventuellement un procès, une confrontation ?
Aucune idée. Je ne vois même pas quel élément pourrait étayer un procès. Je ne sens même parler d'une condamnation. Ça peut durer, ça peut durer encore un an, deux ans.
Pourquoi ? Par peur de dire, en fait, il n'y a rien dans le dossier, et par crainte d'émeute,
peut-être par crainte d'émeute. Peut-être par crainte d'émeute, et peut-être que les magistrats ou les pouvoirs publics en général surestiment le pouvoir d'influence du comité. Moi, je les ai vus tenter d'aller démarcher dans des cités. Ils faisaient vraiment la retape dès qu'il y avait un fait divers et qu'un jeune avait été tué par la police pour essayer de mobiliser, de conscientiser, comme ils aiment bien dire. Et à chaque fois, c'était un bide. Ces gens-là ne représentent pas les cités. Ils mobilisent beaucoup quand ils font quelque chose au cœur de Paris, place de la République. Quand ils vont en banlieue, il n'y a personne. C'est pas du tout... En fait, ils ont un discours de maoïste des années 70 qui ne parle pas du tout à des gens au pied des tours.
Donc, ils n'attendent Virginie Gauthier et n'attend rien, en fait. Juste que cette affaire se termine.
Elle espère que ça va se terminer. Comme elle le dit elle-même, c'est un livre qui n'aurait pas dû voir le jour.
Dernier mot, Virginie Bassé.
Ce gendarme en question, il travaille aujourd'hui ou il est mis à pied
Oui, Romain Fontaine travaille. Il est, ses qualités professionnelles sont reconnues. Ça le mine, évidemment, mais ça va.
Merci beaucoup. Mon fils n'est pas un assassin. L'affaire Adama Traoré, la contre-enquête aux éditions Romère Lafon, Virginie Gauthier avec Erwan Seznec. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce punchline ce soir. Dans un instant sur Europe 1, Europe Soir avec Raphaël Devolvé et Hélène Zélani. Et sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée à vous deux. À vous sur nos deux antennes plutôt. Bonne soirée.
Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur Europe 1.